Le journal présenté par Isabelle Souquet.
Bonjour, 7 personnes sont toujours en garde à vue après l'attaque au couteau à Paris. Les 2 blessés sont hors de danger, mais ils ont été grièvement blessés. Les États-Unis dans l'attente d'une nomination très symbolique à la Cour suprême aujourd'hui. Et nous parlerons aussi du Liban dans ce journal. Beaucoup d'émissions y sont consacrées tout ce week-end. Nous aurons avec nous l'ambassadeur du Liban en France. Au lendemain de l'attaque au couteau qui a fait 2 blessés hier à Paris, un des suspects a été relâché. C'était un simple témoin de la scène. Mais une autre personne est désormais en garde à vue. C'est un homme de 33 ans, de nationalité algérienne, colocataire du principal suspect. 7 personnes ont passé la nuit en garde à vue. L'auteur présumé est un jeune homme de 18 ans qui se dit pakistanais, arrivé en France quand il était mineur, pris en charge par l'aide à l'enfance. Il n'a jamais présenté de signes de radicalisation jusqu'à hier. Il dit aujourd'hui assumer son acte. C'est un acte de terrorisme islamiste. Selon le ministre de l'Intérieur, le parquet national antiterroriste a été saisi. Dans l'attaque, 2 journalistes ont été blessés grièvement au visage, opérés hier soir. Les nouvelles de leur santé sont rassurantes, selon un des fondateurs de leur agence. Cette agence, première ligne, jouxte les anciens locaux de Charlie Hebdo, un endroit qui ne faisait l'objet d'aucune surveillance particulière malgré sa charge symbolique. L'Élysée a depuis contacté les familles des victimes pour exprimer son soutien. Une journée de sursis pour les gérants de bars et de restaurants à Marseille. Les établissements ne fermeront que demain soir et pour 15 jours. Une nouvelle très mal accueillie par la municipalité qui a pris la tête d'une véritable fronde sur place. Mais le ministre de la Santé qui était hier à Marseille n'a pas démordu des consignes de fermeté. À l'étranger, aux États-Unis, un peu plus d'une semaine après la mort de la magistrate de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, Donald Trump doit dévoiler ce soir le nom de celle qu'il veut nommer pour remplacer la juge progressiste, celle, car il a répété qu'il voulait choisir une femme. Le président veut nommer une juge conservatrice pour modifier durablement l'équilibre de la plus haute instance judiciaire du pays. Depuis la mort de celle que tout le monde appelait RBG, la Cour suprême est en effet formée de 5 magistrats conservateurs et 3 progressistes. À moins de 40 jours de la présidentielle américaine, le président veut aller très vite. Washington, Grégory Phillips.
C'est un long processus qui va débuter à partir du moment où Donald Trump aura rendu public le nom de celle, il a promis que ce sera une femme, qui sera appelée à remplacer Ruth Bader Ginsburg. D'abord, la candidate retenue verra son profil examiné dans les moindres détails par le FBI et par la commission judiciaire du Sénat. Généralement, cela prend des semaines, mais si Trump choisit la juge conservatrice de Chicago, Amy Coney Barrett, qui fait figure de favorite, alors celle-ci, qui était pressentie pour la Cour suprême il y a 2 ans, a déjà passé tous ses contrôles. Il est sans doute possible de gagner du temps. Ensuite, la candidate devra rencontrer les sénateurs individuellement, mais les précautions sanitaires liées au coronavirus feront peut-être sauter cette étape. Puis, audition télévisée par les 22 membres de la commission judiciaire du Sénat. Généralement, elle dure 3 à 4 jours. Kamala Harris, candidate à la vice-présidence, fait partie de ce comité. Enfin, le Sénat est appelé à confirmer ou non la nomination à la majorité simple. Avec 53 sénateurs contre 47 démocrates, ça devrait finalement passer. Si c'est le cas, c'est seulement à ce moment-là que la juge peut être officiellement nommée par le président. Dans l'histoire contemporaine, tout ce processus prend en moyenne 70 jours. Là, Donald Trump veut aller le plus vite possible et espère avoir installé cette nouvelle juge à la Cour suprême avant l'élection du 3 novembre.
France Culture, 12h34. Comment penser l'avenir du Liban? Vous l'avez compris, 2 mois après la tragédie du port de Beyrouth, France Culture, en association avec l'Institut du Monde Arabe, ouvre très largement son antenne au pays qui tente de se reconstruire. Avec nous, Rémi Adouane, ambassadeur du Liban en France. Bonjour.
Bonjour madame.
Alors, grosse actualité aujourd'hui, on a appris que le Premier ministre renonçait ce matin. C'est encore un nouveau coup dur qui arrive?
C'est un nouveau coup dur qui arrive, mais c'est un coup dur, comme tous l'ensemble des coups durs auxquels le Liban a été confronté, qui va sans doute forcer les Libanaises et les Libanais à se reprendre en main, à dépasser ce défi et à regarder vers l'avenir.
Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Parce qu'il va bien falloir finir par arriver à former un gouvernement au Liban.
Comme vous l'avez annoncé, le Premier ministre désigné a renoncé à former un gouvernement. Il a expliqué les raisons derrière ce renoncement, mais il reste quand même 2 éléments qui sont fondamentaux fondamentaux pour poursuivre les efforts. D'une part, l'initiative du président Macron, lancée le 1er septembre depuis Beyrouth, est toujours en cours, jusqu'à ce que son initiateur ou ses initiateurs l'abandonnent. Et puis d'autre part, nous avons toujours une constitution qui pave la voie pour les étapes à venir. Il faudra sans doute procéder à de nouvelles consultations parlementaires pour aboutir à la désignation d'un nouveau Premier ministre qui sera chargé de former un gouvernement inclusif, formé sur la base de consultations entre le Premier ministre désigné et l'ensemble des parties prenantes, les partis politiques présents au Parlement, certes, pour une question de confiance plus tard à obtenir du gouvernement qui sera formé, et aussi l'ensemble de la société, une société qui est meurtrie par l'explosion du 4 août, mais une société qui garde espoir dans le pays malgré les difficultés actuelles.
Alors le Liban a ceci de particulier qu'il y a une réalité confessionnelle, le Premier ministre, enfin le président est toujours chrétien et ainsi de suite. Aujourd'hui, un des points de blocage semble être que le Hezbollah réclame un ministère des Finances. Ça, c'est pas dans le pacte national. C'était juste le Premier ministre, le chef du Parlement et le président qui avait une attache confessionnelle. Pourquoi est-ce que ça a glissé dans les ministères et comment éventuellement revenir en arrière pour mettre un peu d'huile dans les rouages?
Il ne faut jamais revenir en arrière. En politique, il faut toujours regarder et aller de l'avant, regarder
Alors,
vers
l'avant.
Alors
comment aller vers l'avant efficacement?
Il faut savoir que le Liban est un pays certes jeune, mais c'est un pays qui arrive à maturité avec plus de 6000 ans d'histoire, 6000 ans de richesse, les alluvions de notre diversité sont tout cela, mais aussi 6000 ans de différences. Il faudra tenir compte de ces différences locales pour pouvoir constituer une vision pour la mission qui sera celle du gouvernement à venir. Une mission qui est d'abord et avant tout une mission économique et technique. Le Liban aujourd'hui est confronté à de sérieuses difficultés économiques. Il faudra que le gouvernement qui sera formé s'attelle immédiatement à redresser la barre économique pour éviter les conséquences sociales d'un problème que nous ne souhaitons pas voir au Liban, qui est un problème d'émigration massive de notre jeunesse, un problème d'une confiance qui est difficile à rétablir entre la population et les autorités.
Justement, il y a une partie de la jeunesse qui demande à ce qu'il y ait un peu de laïcité, peut-être pas que ce soit un État totalement laïque, mais il n'y a pas de place pour un ministère qui soit pris par un expert laïque, alors que c'était une des demandes, une des envies du Premier ministre qui vient à l'instant de renoncer. Est-ce que cette dose de laïcité pourrait être insufflée et faire émerger dans le pays quelque chose de porteur?
La clé pour la réussite du Liban est que chacun des Libanaises et des Libanais retrouve sa place dans le gouvernement et dans la structure politique du pays. Il y aura sans doute de la place pour les personnes qui se considèrent comme laïques, mais il faudra aussi tenir compte des réalités politiques au Liban et il faudra que le gouvernement inclusif soit représentatif de l'ensemble des parties prenantes. Certes, il y a des brèches qui peuvent être ouvertes dans un système qui a montré ses limites sur un ensemble de sujets, notamment sur l'approche confessionnelle et sur l'approche religieuse du pouvoir politique.
Il y a aussi un sujet qui fâche au Liban, c'est les habitudes de corruption, hein, puisqu'il faut quand même les regarder en face. Ce changement, un vrai changement de paradigme, par qui il pourrait passer? Peut-être par la jeunesse, par les élites, par la diaspora. Qui est-ce qui pourrait faire changer le Liban qui se complaît quand même depuis des années dans un système qui profite à certains?
Le système a certainement profité à certains et il n'a pas profité à de nombreux autres. Pour sortir de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, il s'agit de compter sur trois éléments fondamentaux. Le premier élément est celui de la diaspora, comme vous venez de le mentionner. Une diaspora extrêmement nombreuse, extrêmement attachée à son pays et qui porte pour le pays de sérieux espoirs de reconstruction et de réforme. Une deuxième chance pour le Liban serait d'intégrer encore plus les nouvelles élites. Ces nouvelles élites qui se sont retrouvées marginalisées depuis la création du Liban par un système qui privilégiait la cooptation entre dirigeants. Et enfin, la jeunesse. La jeunesse est la clé, puisque la jeunesse porte en elle les germes d'un espoir renouvelé pour le pays.
Une dernière chose, Emmanuel Macron a été très présent. Il se sent peut-être un peu isolé. Est-ce que vous appelez à ce que la communauté internationale continue à être au chevet du Liban, ou est-ce que le Liban doit aussi prendre certaines décisions tout seul, j'allais dire, très rapidement?
Il est primordial que les Libanais reprennent confiance dans leur pays. Cette confiance viendra dans une relation saine entre la population et les autorités. Mais cette confiance ne peut être viable que si jamais elle est accompagnée par un élan international de solidarité et d'amitié. Un élan dont la France a été la porteuse au cours de ces dernières semaines. Et nous appelons de nos voeux à la poursuite de l'initiative française et à la poursuite de l'engagement du président Macron, qui a agi non pas comme un grand ami du Liban, mais comme un grand frère de notre pays.
Merci Rami Adouane, ambassadeur du Liban en France. Merci d'avoir été l'invité de ce journal de France Culture. Il est 12h40.
Merci à vous.
La bulle économique, Marie Viennot. Et Marie, aujourd'hui nous allons parler finances. Le gouvernement doit présenter lundi son projet de loi de finances alors que la crise sanitaire vient percuter les prévisions budgétaires.
Si on continue à suivre, c'est-à-dire si des mesures ne sont pas prises, voyez, là j'ai mis le 13 octobre, ça y est, les capacités de réanimation chez vous sont atteintes par les malades.
Jean Castex.
Graphique cartonné entre les mains, le Premier ministre justifie sur France 2 les mesures de restriction pour les Bouches-du-Rhône, courbes à l'appui. Courbes qu'il faut aplatir, aplanir, infléchir, ces courbes épidémiologiques ont envahi le débat public depuis des mois. À l'heure de présenter le budget pour l'an prochain, elles conditionnent aussi les courbes des économistes qui font des prévisions. Ces prévisions sont indispensables à la gestion publique. De la croissance du PIB en 2021 dépendent les recettes que l'État percevra, ce qui conditionne ses dépenses et ses emprunts. Or, les prévisions n'ont jamais été aussi incertaines.
Comment est-ce qu'on rentre la crise Covid dans un modèle de prévision ?
Agnès Benassi-Kéré est chef économiste à la direction du Trésor à Bercy, la direction qui fournit au ministère des Finances les prévisions pour le budget.
C'est une très bonne question, puisque naturellement on n'a pas une équation contamination, on n'a pas un modèle épidémiologique dans le modèle OPAL.
OPAL, c'est le nom du modèle macroéconomique qui permet au Trésor de faire ses prévisions. En temps normal, les incertitudes les plus grandes sont l'environnement international, le comportement des ménages et des entreprises. Aujourd'hui, la crise sanitaire écrase tout. Jamais le brouillard n'a été aussi épais. Le plus sage serait de ne pas faire de prévisions, écrit Agnès Benassi-Kéré dans un billet publié cette semaine, mais faire sans, ce serait naviguer à vue, en pleine tempête. Les prévisionnistes du Trésor ont donc entré à la main, dit-elle, des hypothèses de précaution dans le modèle OPAL et ils ont dû faire une hypothèse majeure, il n'y aura pas de reconfinement ni en 2020 ni en 2021. Cette décision dépendant du gouvernement, on peut se dire qu'il la maîtrise, ou plutôt la maîtriser. La courbe que le Premier ministre a montrée pour les Bouches-du-Rhône cette semaine en disant
« C'est une projection implacable ».
Comment éviter qu'elle ne devienne valable pour la France entière ? Aujourd'hui, la question se pose. Or, le gouvernement n'a pas beaucoup de leviers d'action. À court terme, il n'en a qu'un même, jouer sur les interactions sociales. Ces interactions sont l'une des variables du modèle épidémiologique qui a servi à faire les courbes qu'a montré le Premier ministre. Ce modèle, nommé CIR, a été utilisé pour éradiquer la variole il y a un siècle. Il n'est donc pas tout jeune, mais il a prouvé son efficacité. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques lui a consacré 14 pages, faciles à lire, dans une note publiée en avril. Le problème de ce modèle, écrit cet office, c'est qu'il mésestime la complexité des interactions entre les individus. Dès qu'on modélise les comportements humains, il y a un risque, explique un mathématicien qui a étudié le modèle CIR appliqué au Covid-19. Pendant le confinement, c'était en effet facile de prévoir les interactions sociales, elles étaient limitées au minimum. À la sortie, on est passé en terrain inconnu. Comment prévoir si les gestes barrières et les distanciations sociales seraient par tous et toutes et tout le temps respectés ? On a plus de recul aujourd'hui et les courbes sont donc plus implacables qu'elles ne l'étaient auparavant. Mais à Marseille, clairement, la réponse graduée du gouvernement ne passe pas. À toutes les incertitudes déjà mentionnées vient donc s'en rajouter une autre, l'acceptation des mesures de restriction. L'ironie de la situation, c'est que c'est au nom de la sauvegarde de l'économie qu'élus et restaurateurs marseillais contestent le seul levier d'action dont dispose le gouvernement pour limiter la propagation de la pandémie, alors qu'il prend ses décisions justement pour éviter un chaos économique national. Dire que le gouvernement se retrouve sur la corde raide au moment de présenter son budget n'a jamais été aussi vrai.
C'était la bulle éco, bien sûr, à retrouver sur le site franceculture.fr. Un mot de météo et cette vigilance orange, pluie, inondation maintenue pour les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Encore beaucoup de pluie aujourd'hui sur l'ensemble des régions, côté température, fraîche pour la saison, de 11 à 24 degrés cet après-midi.